Maire de France, bonjour. Nos communes ont la parole sur Radio Territoria, présenté par Christophe Bordet.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Maire de France. Bonjour les amis, nous allons parler de la situation des bâtiments scolaires dans nos communes. Ces bâtiments qui accueillent chaque jour nos enfants, 50 000 écoles primaires dans le pays, des bâtiments vétustes, énergivores, inadaptés aux normes actuelles. Pas tous, hein, bien entendu, mais quand même beaucoup d'entre eux. Comment remédier à ce problème? Comment les maires des petites ou des grandes communes gèrent les situations qui vont jusqu'à l'insalubrité des locaux? Avec quel argent, bien sûr? Le plan de relance va-t-il permettre de rénover les écoles qui en ont bien besoin? Comment les parents vivent ces situations? Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces questions et même peut-être d'apporter des solutions avec nos invités. C'est parti.
On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières avec cette chanson. Hein, voilà. Cela étant, elle décrit aussi cette chanson, une situation qui est réelle dans beaucoup de communes. Pour en parler avec nous, Pierre-Marie Ganozzi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire. Et en plateau, Rodrigo Arenas, qui est coprésident de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour.
Bonjour.
Et merci également d'être là. Si vous me le permettez, Pierre-Marie Ganozzi, avant de parler de la situation de Marseille, qui est particulière, on va l'évoquer hein, tout au long de cette émission, bien évidemment. Je m'adresse d'abord à Rodrigo Arenas, parce que vous êtes le représentant des parents d'élèves. Et c'est vrai, c'est ce que je disais au tout début de cette émission, il y a beaucoup de bâtiments scolaires qui accueillent les enfants chaque jour et qui sont dans des états souvent pitoyables. Et on l'a vu, notamment pendant cette période de crise hein, d'un an et demi maintenant, avec la Covid-19, etc. Voilà. Ne serait-ce que, par exemple, le savon. Il n'y avait pas de savon dans les écoles. Et on s'est dit, là, on atteint vraiment, c'est le bout du bout, quoi. Voilà, c'est la fin. C'est pas possible. Et pourtant, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de savon pour se laver les mains et pour que les enfants puissent se laver les mains. Quelle est la situation réelle aujourd'hui que vous constatez en tant que fédération de parents d'élèves sur l'état des écoles en France et notamment des écoles primaires?
Alors, c'est une situation qui est très inégalitaire. Beaucoup des écoles que vous citez sont liées notamment par rapport à des plans de bâti qui ont été votés, qui ont été budgétés, notamment par la nation. Par exemple, tous ces bâtiments qui sortent de l'après-guerre. Et vous avez aussi cette situation aussi sur les logements. Quand vous êtes dans des quartiers, par exemple, on a cette image d'Épinal, des cités HLM, dans lesquelles ont été aussi les écoles, mais aussi les universités. Par exemple, avec tous ces bâtis Payron, aujourd'hui sont arrivés à terme de leur vie, qui étaient prévus au moment où ils ont été construits. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, les maires, les départements, les régions, quand elles sont livrées à elles-mêmes, puisque c'est leur prérogative, rappelons les régions pour les lycées, les conseils départementaux pour les collèges et les communes pour les écoles primaires et maternelles, donc élémentaires, souvent elles n'ont pas les moyens, parce que réforme fiscale après réforme fiscale, elles n'ont soit pas les moyens, soit aussi pas la volonté politique de rénover ces écoles-là, et les enfants en pâtissent. Alors, il y a deux aspects là-dessus. C'est à la fois une vision de bâti en tant que tel, le dur, le béton, où maintenant on ne fait plus tellement comme ça, on fait d'autres matériaux évidemment, parce que l'écologie s'en est mêlée, parce qu'aussi le genre s'en est mêlé, ces établissements dont les toilettes sont des lieux de danger pour les filles et les garçons, etc. Toutes ces problématiques-là, aussi les questions liées à l'homophobie.
Vous avez des enfants, on parlait du savon hein, tout à l'heure. Oui. Bon, là j'ai pris exprès l'exemple qui parle à tout le monde. Mais vous avez plein d'enfants aujourd'hui qui n'osent pas aller aux toilettes durant la journée. Ils passent une journée entière à l'école sans aller aux toilettes. Parce que c'est dégueulasse, disons-le, clairement.
Parce que soit c'est sale, parce que les lieux de
ça
passage...
Ça marche pas, c'est cassé.
Ça marche pas, mais c'est aussi parce que les toilettes ne sont pas non plus une préoccupation quand on arrive à l'âge adulte. C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on est dans les conseils d'école, d'ailleurs, je pense que le maire que vous avez invité vous le dira, la première des préoccupations, c'est les parents. Nous avions fait, nous, la FCP, une carte de vœux dans ce sens-là, qui disait que les enfants devaient aller aux toilettes quand ils en ont besoin, et pas seulement quand le règlement intérieur l'autorise. Et au début, c'était moquerie, c'était raillerie. Parce que quand on arrive à l'âge adulte, on oublie, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que les toilettes sont anecdotiques alors qu'ils sont au centre. Ils sont au centre d'abord du rapport à son corps, à soi, du rapport au corps de l'autre, le rapport à l'hygiène. Je prenais souvent à l'époque l'exemple du Japon, dans lequel ce sont les élèves qui font le nettoyage des toilettes parce qu'il y a une notion d'intérêt général, d'intérêt collectif par rapport à ça. Et quand le Covid arrive, eh ben, ça explose à la figure de tout le monde parce que oui, il y a des écoles dans lesquelles les toilettes n'étaient pas fournies régulièrement, donc quand c'est s'épuisé, eh ben, il n'y en avait plus. C'est pareil pour le papier, c'est pareil pour les évacuations, les toilettes qui sentent l'urine, etc. Alors, c'est pas partout. Mais ça existe, et malheureusement, quand ça existe, c'est souvent sur ces écoles-là qu'on met le focus. Et aujourd'hui, pour faire face à ça, eh ben, on ne parle pas juste de mettre du savon, c'est un plan plus général, parce qu'une commune n'a pas une école, en général, elle en a deux, trois, quatre, dans une ville comme Marseille, puisque c'est votre invité, on parle de dizaines d'écoles, donc on parle de millions d'euros. On est en train de parler de ça. Donc il y a une question de fiscalité, il y a une question de prévision, et il y a aussi une question de volonté politique, et surtout la question, c'est est-ce qu'on doit laisser les communes ? Nous pensons que c'est à l'État d'être le grand organisateur de tout ça.
Donc c'est l'État qui doit reprendre en main et donc avoir la charge financière à la fois de la rénovation, de la construction le cas échéant, de l'entretien des écoles primaires par exemple.
Si on considère que c'est un plan national dont on a besoin, alors oui, parce que c'est sa prérogative. Mais vous savez, tout ça, ça a aussi pété à la figure à tout le monde, on oublie de le dire au moment de la canicule. Au moment de la canicule, il y a eu des écoles, d'ailleurs des gamins qui ne s'étaient pas réveillés, je pense, dans les Ardennes, parce que bah, pendant la sieste, il faisait trop chaud, et on a dû appeler les pompiers.
Alors, bah, il n'y a pas d'airco, hein, c'est sûr.
Il n'y a pas d'airco, les fenêtres ne sont pas utilisées, les volets ne sont pas bons, etc. Donc il y a des vraies problématiques, mais il y a des solutions aussi à ça. Simplement, les solutions, ça coûte de l'argent, et que ce n'est pas vrai qu'en laissant les communes seules faire les choses, elles y arriveront, parce que soit elles n'ont pas les moyens, soit elles disent bah, on verra plus tard. Et là, c'est les gamins qui trinquent à la fin.
Alors justement, si je puis dire, j'ai envie de dire, Jean Castex vous a entendu. Parce que plan de relance, 950 millions pour la rénovation des bâtiments des collectivités, dont une bonne partie pour les écoles. On est sauvés ?
Alors nous, on pense qu'on n'est pas sauvés. D'abord, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça donne le timing. C'est-à-dire que ce dont je suis en train de vous parler, c'est un plan canicule que nous avons écrit, que nous avons popularisé sur les réseaux sociaux, qui a été envoyé à tous les parents d'élèves. Mais je vous parle de ça il y a 3 ans. C'est-à-dire que la France, globalement, met 3 ans à prendre en compte une problématique, mais parce qu'il y a une crise. C'est-à-dire que ça n'avait pas été anticipé.
S'il n'y avait pas eu la crise Covid, il n'y aurait pas eu de plan de relance,
canicule
a priori.
Plus COVID, a priori, ça aurait été compliqué parce que c'est quelque chose que notre fédération porte depuis longtemps. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau budgétaire, ce n'est pas au niveau. Parce que là, on a besoin de milliards d'euros. On a besoin que le plan de relance, par
950
exemple.
950 millions, je le rappelle.
Voilà, 950 millions. Enfin, je pense que
dont une partie ira effectivement aux écoles.
Là, 950 millions, excusez-moi, un collège, ça coûte 20 millions d'euros. Donc on n'est pas en train de parler sérieusement. On a mis 110 milliards d'euros sur la table pour le plan de relance. Il n'y a que entre 2 et 3% qui sont consacrés aux écoles. Et dans tout ça, on doit en plus faire d'autres choses. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas au niveau. Et pourtant, ce bâti-là, c'est vraiment un vrai acteur économique, c'est un vrai levier. Quand je dis qu'un collège, ça coûte 20 millions d'euros, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui réfléchissent avec les architectes, avec les élus aussi. C'est faire participer les parents, faire participer les élèves notamment. Je pense à ce collège de Seine-Saint-Denis, dans lequel ce sont les élèves qui ont dessiné les toilettes, qui ont été rénovées, etc. Mais tout ça, c'est de l'argent et nous pensons que ce n'est pas vrai que 900 millions d'euros, ça sera au niveau du besoin qu'il y a, mais surtout, on ne peut pas laisser aujourd'hui les maires livrer eux-mêmes, parce que concrètement, quand on le fait, eh ben, ça ne marche pas. Donc il faut arrêter de faire ce qui ne marche pas, et être audacieux, avoir du courage, avoir le courage politique de dire, voilà tant de milliards, et voilà ce que je veux, avec un plan qui soit défini.
Non, mais surtout qu'on n'arrête pas de nous dire que l'école, c'est la priorité, quand même.
Bah, avec 900 millions d'euros, la
réponse, quelle que soit la couleur politique.
Voilà. Vous savez, notre partie, c'est les parents, nous. Et donc, notre partie, c'est les enfants, en l'occurrence. Donc, oui, 900 millions d'euros, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, non pas. Enfin, on peut pas aller dans les effets d'annonce, on peut pas continuer à travailler comme ça. Voilà, c'est simple. Je vous ai donné le chiffre d'un collège, mais si vous allez sur une école, c'est pareil. Et puis, tout ce qui va autour, aujourd'hui, il y a d'autres préoccupations. Vous avez parlé tout à l'heure dans la sieste qu'on se réveille pas parce qu'il n'y a pas les fenêtres. Non, aujourd'hui, il y a aussi la question de l'environnement proche de l'école, notamment ce qui sont la question des purificateurs d'air, la question de l'aération, c'est-à-dire la question des cours qui sont aujourd'hui en bitume et qu'il faut mettre en pelouse parce que c'est bon pour la planète et c'est bon pour les gamins aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on réfléchit autrement. autrement, en fait. Il faut changer de braquet, il faut changer de vision, il faut changer, en fait, il faut intégrer le 21e siècle, quoi, en fait. C'est juste ça, l'idée. On est en train de réfléchir à l'école comme au 20e siècle. Bah, ça n'a pas marché avant, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, que ça continue à fonctionner aujourd'hui.
Alors justement, tiens, Rodrigo Arenas, on va partir à Marseille pour retrouver Pierre-Marie Ganozzi, qui est adjoint au maire de Marseille en charge du plan école. Mais avant, état des lieux des écoles marseillaises avec vous, Élodie Rabel.
Dans la cuisine, on tombe sur les sanitaires des enfants, quoi. C'était bien de montrer ça. Regardez. En haut, c'est tout fermé avec du scotch pourri de l'an qui vient. Il n'y a pas d'air qui passe. C'est ma
fille à moi. Ambiance, hein, ce que vous entendez là, hein, c'est Samia Ghali avec des parents d'élèves lors d'une visite guidée d'une école du 15e arrondissement de Marseille. Cette école, c'est loin d'être un cas isolé. Hein. 500 écoles sont en mauvais état. Pour vous faire le tableau, on a des enfants dans des préfabriqués depuis des années, des cours par 40 degrés en été, 15 en hiver, des punaises de lit dans les dortoirs, des toilettes ouvertes aux quatre vents, bref, un état sanitaire déplorable. Et pour vous dire l'ampleur du phénomène, depuis 2015, la décrépitude des écoles marseillaises fait régulièrement la une de la presse. Tour d'horizon 2016, une troupe de rats dans les classes d'école Rose-Valplan, l'école contrainte de fermer, 146 élèves sur le carreau. 2018, encore des rongeurs, cette fois à la cantine de l'école Canet-Larousse. 2019, le faux toit d'une école s'effondre. Pour la blague, c'était quand même déjà arrivé deux fois l'année d'avant dans d'autres écoles et la liste n'est pas exhaustive. Le délabrement des écoles, c'est un sujet dominant lors des dernières municipales. 30 millions d'euros sont déjà débloqués depuis l'été dernier. Une somme en plus des 40 millions adoptés sous l'ancienne majorité. Pour quel résultat ? Parer au plus urgent, du papier toilette, du savon, du gel hydroalcoolique pendant la crise sanitaire, récurer les gouttières et des petits travaux encore d'effectuer. Il n'empêche que l'école à Marseille, ça ne fait pas rêver. On manque de moyens et de matériel humain et aussi du bâti. Un plan école doit être mis en route. Le gouvernement y participera. C'est une promesse. Un plan de rénovation à plus d'un milliard d'euros pourrait être annoncé dans quelques semaines.
Eh bien justement, on va demander à Pierre-Marie Ganozzi si effectivement ce milliard d'euros, ce plan va effectivement voir le jour. On a entendu d'abord Pierre-Marie Ganozzi, et encore merci d'être en direct avec nous depuis Marseille. On a entendu ces manifestations, ces manifestants, ces parents d'élèves, il y a quelques mois maintenant. Vous êtes arrivé au pouvoir avec la majorité actuelle il y a un an. La situation que vous avez trouvée, est-ce qu'elle est pire que ce que vous aviez imaginé ?
D'abord, merci de m'avoir invité. Donc, je suis effectivement l'adjoint des oubliés. Et ma mission, c'est de faire en sorte que ceux qui ont été oubliés pendant trop d'années ne le soient plus. Je fais référence évidemment à la chanson introductive de votre émission, Les oubliés de Gauvin Serres. Donc, la situation, elle est effectivement très mauvaise à Marseille. Alors, ce n'est pas la totalité des écoles hein, qui sont dans un état qui est déplorable.
Quel est le pourcentage à peu près ?
À peu près un quart des écoles marseillaises sont dans un état déplorable. Un autre quart nécessite des travaux assez importants. Puis pour les deux autres quarts, on est soit dans un état correct, soit dans un état satisfaisant, voire très satisfaisant. Et donc moi, si vous voulez, ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'ancienne majorité avait lancé un grand audit technique sur les écoles, et cet audit était resté un petit peu dans les tiroirs. Et donc, quand je suis arrivé en juillet dernier, donc c'était il y a 10 mois, fin juillet dernier, mon principal objectif, ça a été certes de fournir du savon, permettre l'hygiène enfin, dans les écoles, mais aussi et surtout la sécurité du bâti scolaire. Ça a été, et ça l'est toujours d'ailleurs, mon obsession, c'est faire en sorte que tout ce qui avait été pointé du doigt comme étant des bâtiments dangereux ou relativement dangereux soit le plus rapidement possible mis en sécurité.
Donc, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait là déjà ?
Alors, ça a été à certains endroits, ça a été renforcer un plancher qui menaçait de s'effondrer. À d'autres, ça a été des murs fissurés qu'il a fallu analyser, renforcer et renforcer le mur. À d'autres endroits, ça a été des fuites, par exemple des fuites de panneaux solaires qui s'écoulaient dans l'école et qui écoulaient en fait du produit qui pouvait être toxique pour les enfants. Voilà, c'est ce genre de choses qui a été pointé du doigt par les audits techniques qu'il fallait résoudre le plus vite possible. On est en train de les résoudre. On est aujourd'hui fin du mois de mai, on est pratiquement arrivé à à atteindre l'objectif de 80% de résolution de ces problèmes techniques. Et tout ce qui n'a pas été résolu, c'était des bâtiments. Monsieur faisait référence au paillerons. Alors, enfin, dans le premier degré, c'est pas des paillerons, ce sont des GEP. Et en fait, tout ce qui concerne les GEP, on est en train de faire un grand plan de mise en sécurité de ces écoles.
Alors, justement, pour bien comprendre les choses, parce que c'est vrai, d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a quelques années, la une de Libération a été assez vacharde. Hein, c'était en 2016. École à Marseille, la honte de la République. Oui, absolument. Ça en disait long sur la situation. Vous avez en charge le plan école. Pierre-Marie Ganodzis, ce plan école concrètement, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les petites réparations, etc., on parlait d'un plan d'un milliard d'euros là, qui normalement doit arriver, c'est ça que vous avez en charge, gérer le milliard d'euros qui va arriver et qu'il soit orienté vers les bons usages ?
Exactement, ce plan a pour objectif d'abord de remettre à niveau les écoles marseillaises, qui sont, comme vous l'avez compris, très en dessous du niveau de la mer. Donc d'abord, les remettre à niveau, et ensuite, mener une politique ambitieuse pour les écoles de Marseille. Donc il s'agit à la fois de construction d'écoles neuves, dans des endroits où il y a des manques, à la fois de la réhabilitation importante, et nous avons d'ailleurs lancé, lors du précédent conseil municipal, un plan de rénovation de 10 écoles GEP, en réhabilitation complète, et en même temps, un plan de rénovation, j'ai envie de dire de rénovation de petits travaux qui en fait empoisonnent la vie des parents d'élèves et des enseignants au quotidien. Donc c'est à la fois sur ces trois piliers-là qu'il nous faut répondre, et c'est ce pourquoi je me lève tous les matins depuis 10 mois, donc en essayant d'abord d'aller chercher des financements, et puis deux, de mettre en place de nouveaux procédés pour être plus efficace.
Mais donc ce milliard dont on parle qui doit arriver, ça c'est sûr, enfin il n'y a pas de doute, il va arriver.
En tout cas, je l'espère, le maire de Marseille, M. Payan, a déjà rencontré le président de la République à ce sujet. La ministre, Mme Gouraud, est venue il y a 15 jours de cela à Marseille, on lui a redit la même chose. Donc nous avons bon espoir, c'est que l'État puisse participer avec nous pour remettre les écoles de Marseille à flot. On n'est pas en train de faire l'aumône, hein, on est simplement en train de...
Non, mais dans le cadre du plan de relance, ça peut avoir un sens.
Absolument, absolument. C'est dans ce cadre-là que nous agissons. D'ailleurs, les 10 écoles GEP dont je vous ai parlé tout à l'heure sont inscrites dans le plan de relance. On va aller chercher 90% de subventions, ce qui, à ma connaissance, est de l'inédit en termes de rénovation, hein, 90% de subventions, c'est absolument énorme.
Alors dans ce que je vois, la mairie de Marseille engage donc la construction, vous parliez de bâtiments neufs il y a quelques instants, de nouveaux groupes scolaires, c'est ça, dans les 3e et 15e arrondissements, financés,
oui,
aussi avec le soutien de la Banque des Territoires, c'est ça?
Exactement, exactement. Alors deux écoles totalement neuves, dans le 3e arrondissement, qui devrait voir le jour d'ici 2024, un agrandissement important dans le 15e, une réhabilitation, enfin une extension d'école également dans l'hypercentre, dans le 1er arrondissement. Voilà, ce sont petit à petit, ce sont les premières pierres du plan école que nous sommes en train de mettre en place. Je dis première pierre parce que, comme l'a dit votre collègue, on est sur un plan vraiment massif, hein, 1 milliard d'euros. Alors, 1 milliard d'euros sur deux mandatures, hein, je pense que sur une grosse dizaine d'années. Mais donc, c'est un plan qui est absolument c'est pharaonique.
Oui, plusieurs, hein, partenaires pour y arriver, puisque je le rappelle, Jean Castex a promis, lui, 950 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour les écoles. Donc, enfin, une partie de cette somme, en tout cas. On ne sait même pas trop quel est le pourcentage exact. Donc, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup par rapport aux milliards dont vous parlez. S'il n'y a pas plusieurs acteurs qui viennent additionner les différentes sommes, on n'arrive évidemment pas à ce milliard d'euros. Une question, vous avez entendu Rodrigo Arenas tout à l'heure qui dit mais finalement il faudrait que ce soit l'État qui reprenne la main complètement sur les écoles primaires parce que les communes n'ont pas les moyens, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'après on peut se poser la question de se dire oui mais l'État n'a pas cette proximité, donc ça peut paraître aussi compliqué, cette connaissance fine du terrain, c'est vous qui l'avez, c'est pas l'État.
Alors, c'est vrai. Après, je crois que là, on est en train de toucher du doigt une question éminemment politique. C'est-à-dire que là où les communes décident de mettre le paquet sur les enfants et donc sur l'avenir de leur commune, je crois que ça se passe bien. En revanche, là où les communes mettent les choses un peu de côté ou veulent peut-être privilégier l'enseignement privé, pour ne pas le nommer, alors à ce moment-là, ça se passe mal. C'est exactement la situation qui était celle de Marseille, où depuis au moins une dizaine d'années, on avait un investissement global dans les écoles qui diminuait, et donc une situation qui empirait dans les écoles. Mais ça, c'est des choix politiques. Est-ce que c'est l'État qui doit aider ou pas? Je ne sais pas. Là où il y a un trop gros retard, comme à Marseille, oui, sans l'État, on ne pourra pas y arriver. En revanche, il y a d'autres communes, comme par exemple Paris, qui se sont très bien débrouillées pour parvenir à avoir une politique éducative optimale, mais ça, c'est un choix politique qui a été réalisé. D'ailleurs, quelle que soit la couleur politique, hein, en l'occurrence, Paris, c'était de gauche, mais je crois qu'à Bordeaux, il n'y a pas eu non plus de graves problèmes par rapport aux écoles. En tout cas, c'était un non-sujet lors de la dernière campagne des municipales, parce que probablement que M. Juppé, lui, avait à cœur de
Mais
de,
c'est intéressant
de
ce que vous
écoles.
Dites. C'est intéressant ce que vous dites, Pierre-Marie Ganozzi, d'autant plus qu'on revient à ce que disait Rodrigo Arenas tout à l'heure, c'est-à-dire les territoires face à des inégalités. Quels sont les territoires en France, Rodrigo Arenas, vous qui représentez les parents d'élèves et les élèves, donc, quels sont les territoires qui sont aujourd'hui le plus en difficulté par rapport à la situation de ces bâtiments scolaires?
Alors, il y a plusieurs problématiques en fait qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, si on regarde la côte ouest, Maine-et-Loire, Vendée, Bretagne, etc. Ce que disait votre invité, il y a eu clairement un favoritisme en direction des écoles privées confessionnelles. D'ailleurs, parce qu'on va se le dire aussi, les seuls espaces 100% laïcs, elles ont tout à fait le droit d'exister, la loi le permet, mais les seules écoles 100% laïques sont les écoles publiques. Donc il y a d'autres enjeux qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire que quand on favorise des écoles privées au détriment des écoles publiques, ça se voit, d'abord, pour des raisons que vous évoquez, en termes de bâti, etc. Mais surtout, on assiste aussi à une sorte de commercialisation de l'école. C'est-à-dire que l'école devient un business. C'est-à-dire qu'on encourage, en fait, les familles à mettre la main au portefeuille pour les scolariser dans le privé, parce que ça se voit en termes de bâti, en termes d'équipement. Donc, c'est pas que la question de l'enseignement. C'est aussi la question
du centre d'accueil. Non, mais c'est culturel aussi, un peu, ça. C'est pas que une histoire...
Alors, ça dépend. Ça dépend parce que vous avez là, par exemple, j'étais en contact avec...
Si on parle de la Vendée,
Ouais, non, moi... Vous avez raison, il y a clairement des orientations politiques là-dessus. Bon, là, c'est des choix politiques, sauf que il y a un souci, c'est que les seules écoles qui accueillent de façon universelle, sans tri sélectif à l'entrée, j'ai envie de dire, c'est les écoles publiques. Donc quand vous n'en avez pas, on ne peut pas avancer l'argument de « il n'y a pas d'argent », sauf qu'on le met ailleurs. Donc que soit on met un espace public pour tout le monde, et auquel cas on peut discuter des privés, mais s'il n'y a que du privé, et que les enfants, les familles n'ont pas d'autre choix que de scolariser les gamins à 3 quarts d'heure de quart, 1 heure de quart, y compris en maternelle, comme c'est le cas en ce moment dans une école dans le Maine-et-Loire, écoutez, là, il y a un souci. Donc c'est en cela aujourd'hui que c'est une vraie problématique, et où l'État doit intervenir, non pas pour dire aux maires ce qu'ils doivent faire, parce que... Votre invité a raison. Quand les maires sont volontaires sur ces questions-là, c'est pas une question de couleur politique. C'est que la question aujourd'hui, c'est que quand les maires ne font pas le job, ou les conseillers départementaux ne font pas le job, ou les régions ne font pas le job, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et en l'occurrence, on ne peut pas créer des inégalités de traitement entre les enfants de la République quand les parents font le choix de mettre les dans l'école publique. Et c'est ça le problème qu'on a. Donc quand on favorise, faut pas que ça se fasse habiller Pierre pour déshabiller Paul de l'autre côté. Vous voyez, c'est ça la problématique qu'on a. Donc oui, nous, on a ces retours-là.
Donc la partie ouest de la France.
Vous avez l'ouest, vous avez évidemment tous les quartiers politiques de la ville qui sont liés notamment au développement qui ont été les investissements de l'ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Quand vous avez eu les milliards d'euros qui ont été mis sur la table, les écoles ont suivi le pas. Et c'est ce que disait votre invité. C'est-à-dire que là, il parle d'1 milliard d'euros d'investissement. Et Castex, 1950 millions d'euros. Ça veut dire que, ne serait-ce que pour Marseille, le plan de relance de l'État devrait se consacrer qu'à cette ville-là pour que ça sorte de l'eau. Avant deux mandats, parce que deux mandats, c'est 12 ans. Est-ce qu'on a le temps d'attendre 12 ans? Moi, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu parce que y a une question de santé publique aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé plusieurs fois la pandémie. C'est-à-dire que si demain, on a une nouvelle pandémie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps d'attendre? La réponse, c'est non. Donc la question, c'est pas d'aller trop vite pour refaire de l'éphémère. Il s'agit d'aller vite, de façon concertée, mais en s'inscrivant sur une vision de l'avenir. Quelles sont les problématiques? Quels sont les enjeux auxquels va être confronté le bâti scolaire? Les enjeux démographiques, avec, par exemple, parlait beaucoup de Paris, mais il n'y a pas que Paris. Mais d'une façon générale, dans les grandes villes, il y a une tendance à avoir des familles qui vont dans les zones périphériques. Inévitablement, ça crée des tensions dans des villes qui accueillent des nouvelles populations, mais sans forcément avoir le budget, donc l'impôt, ou les DGF, les dotations globales de financement, pour pouvoir faire face à cet afflux d'enfants. Donc, il y a un vrai sujet de...
Il y a moins de naissances ces dernières années, donc...
Alors, vous y avez moins de naissances, mais il n'y a pas moins d'enfants dans certains territoires. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, c'est un secret pour personne aujourd'hui, quand vous avez les afflux de Parisiens qui sont repoussés vers l'extérieur du fait de la pression immobilière, c'est les enfants qui arrivent. Donc, il n'y a pas plus de naissances, mais il y a plus d'enfants, avec des communes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir investir dans un temps rapide pour investir. Donc, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui. Vous prenez, par exemple, Paris. Aujourd'hui, vous avez des écoles qui, à terme, vont se vider. Des collèges, des écoles primaires, des écoles élémentaires. Pourquoi est-ce qu'on n'accueille pas les enfants de la banlieue ? Il y a le métro. Il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas cette vision de long terme d'étaler.
Mais pourquoi ces écoles vont se vider à Paris, je ne comprends pas.
Elles vont se vider parce que quand vous avez une famille qui va acheter, par exemple, un petit pavillon de banlieue ou un appart à Montreuil, ou au Pré-Saint-Gervais, ou au Lila, pour ceux qui connaissent, c'est les villes limitrophes en Seine-Saint-Denis, ces enfants-là qui étaient parisiens, ils arrivent dans des communes qui n'ont pas forcément les moyens d'accueillir tous ces enfants. Or, ils avaient une place à Paris. Et il y a un truc qui est extraordinaire à Paris, ça s'appelle le métro. C'est marrant, tout à coup, on ne l'utilise plus. Tout à coup, le métro devient un obstacle. C'est-à-dire, tout à coup, le périphérique devient un obstacle où on refuse ces enfants qui sont estampillés banlieue, mais qui étaient des Parisiens. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette réflexion sur une échelle territoriale plus longue. Donc, ça pose la question de la mobilité, ça pose la question du bâti, ça pose la question de l'emploi, ça pose la question de comment est-ce qu'on intègre des circuits courts, comment est-ce que... Vous voyez, c'est tout ça qui est au cœur. Et Marseille n'échappe pas à cette réflexion-là. Lyon n'échappe pas à cette réflexion-là. Bordeaux n'échappe pas à cette réflexion-là. C'est si on construit des mégalopoles qui se vident de leur population... va falloir prendre en compte l'école. Donc, ce n'est pas seulement une question d'investissement. C'est aussi une question d'investissement avec, comme on dit, avec la vista. Et malheureusement, aujourd'hui...
C'est une question de politique publique globale.
Exactement. Et cette architecture, cet architecte de l'école, ces réflexions collectives doivent mettre autour de la table plusieurs élus, et pas simplement dans les frontières, notamment des communautés de communes telles qu'elles existent aujourd'hui, parce que la question se pose à minima de façon départementale, voire au niveau régional. Et nous pensons à l'échelle nationale parce qu'on a de plus en plus de familles qui habitent à 1 heure, 2 heures de transport, avec le train, par exemple, des grands centres urbains, mais dont les enfants sont scolarisés à 1 heure ou 2 heures. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le Covid l'a amené, le télétravail l'a amené, la mobilité l'a amené. On vit autrement. Donc, cette façon de vivre, il y a des choses qui vont rester, on le sait. Il va falloir intégrer les écoles parce que les enfants, eux, leur scolarité, soit elle se fait au plus près de là où ils habitent, c'est la loi. Soit on réfléchit autrement et on modifie la loi. Et là, excusez-moi, c'est le Parlement, c'est pas les communes qui vont décider. C'est-à-dire, oui, on peut autoriser tout à fait un enfant de la ville de Montreuil d'être scolarisé à Paris. Et aujourd'hui, c'est pas possible.
Ouais. Dites-moi, est-ce que vous êtes quand même, et on arrive au bout de cette émission qui passe très vite, mais est-ce que vous êtes quand même confiant pour les années qui viennent sur, effectivement, au-delà de ce que vous avez dit, c'est une politique globale, effectivement, mais sur le thème même de cette émission, c'est-à-dire ces écoles qu'il faut entretenir, construire, etc. Est-ce que vous sentez malgré tout, alors peut-être que l'argent n'est pas assez au rendez-vous, une fois de plus, mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une vraie prise de conscience globale et qu'on va aller vers du mieux ?
Nous, on pense.
Est-ce qu'il y a une note d'espoir ?
Déjà, notre fédération, vous savez, elle est naturelle très optimiste. Très optimiste parce que quand on s'occupe des enfants, si on n'est pas optimiste, j'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué la suite. Donc oui, nous, on a quand même pas ce sentiment, on a cette réalité. Quand le gouvernement a laissé aux maires la gestion de la lutte contre le Covid en milieu scolaire, finalement, le lieu de la démocratie, le lieu de la réflexion, le lieu de l'investissement, c'est déplacé sur les communes. Donc les maires ont pris conscience de plein de choses, pas seulement sous la pression. Attendez, les maires ne sont pas des salauds. Enfin, se le dire tranquillement.
Non, mais c'est parce qu'ils connaissent bien leur territoire et leurs concitoyens.
Ils connaissent les gens, et puis vous savez, c'est eux qui se font interpeller dans la rue tous les jours, c'est pas le président de la République. Donc à un moment donné, on peut pas travailler toujours sur la pression. Et il faut que les parents entendent ça, on peut pas toujours mettre la pression. Il faut travailler aussi en essayant d'avoir cette vision d'ensemble, en s'appuyant sur les élus locaux, parce qu'ils ont aussi leurs enfants qui sont scolarisés. Donc, à un moment donné, oui, on a confiance parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place pendant cette période qui ont été hyper positives pour l'école. Il y a plein de budgets. On a parlé d'un milliard d'euros aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ont été votés dans la séquence pour mettre du savon, pour mettre du pétouette, y compris pour embaucher des personnes pour faire le nettoyage, plus de tours de nettoyage qu'avant, etc. Donc, oui, on est très optimiste. Par contre, il va y avoir un problème. Le problème, il est quand les élections vont arriver, c'est qu'il y a des choix qui avaient été faits, qui n'ont pas pu être mis en œuvre et pour cause il y avait une urgence. Et il ne faudra pas, changer le curseur quand tout à coup l'opinion publique va changer.
Selon la couleur politique, etc. Ouais.
Il faut être sous la pression. L'école est une priorité pour les communes, il faut que ça le reste.
Un petit mot encore avec Pierre-Marie Ganozzi qui est avec nous. À la fin de la mandature, pour être clair, il n'y aura plus aucune école de la honte à Marseille ?
En tout cas, nous y engageons, oui. Résoudre les problèmes de sécurité les plus urgents, et faire en sorte qu'ils fassent bien vivre dans les écoles et que les enfants puissent bien éduquer, les enseignants bien enseigner. Effectivement. Et pour aller dans le sens de M. Arenas, nous, on est en train de réfléchir à une vision effectivement globale des écoles. C'est-à-dire, par exemple, on est en train de réfléchir à tel endroit, on pourrait faire un gymnase où on va pratiquer le basket. À un kilomètre un petit peu plus loin, l'autre école, ce sera peut-être plutôt un gymnase pour faire du futsal. C'est-à-dire non plus se dire que dans chaque école, il doit y avoir la totalité des équipements, mais peut-être avoir des équipements partagés. Et aussi, nous développons la réflexion, en tout cas ce sont les programmes nouveaux des futurs bâtiments scolaires que nous sommes en train d'écrire, c'est que les bâtiments que nous allons construire ne seront pas ouverts uniquement 36 semaines dans l'année, mais seront ouverts 52 semaines. C'est-à-dire qu'ils seront ouverts aussi, par exemple, les gymnases, pour reprendre l'exemple que je donnais, les gymnases seront ouverts aux associations sportives et aux associations culturelles de quartier. C'est ça que nous voulons mettre en place avec également, par exemple, les cours végétalisés. Alors, voyez, vous dites, est-ce qu'il n'y aura plus d'école de la honte ? Non, notre objectif, c'est que d'ici 5 ans, il n'y ait plus d'école de la honte à Marseille, mais aussi que nous ayons pu commencer à avoir une vraie politique ambitieuse avec, par exemple, les cours végétalisés. Nous en ferons deux.
Donc on va apprendre quoi ? À planter des salades à l'école, c'est ça ?
Alors non, ça va être une réflexion sur l'eau. Ça va être une réflexion sur l'eau. Ça va être une réflexion sur les îlots de chaleur. Et donc créer à l'inverse des îlots de fraîcheur avec peut-être des mini-forêts urbaines. Ça va être aussi créer des petits coins cosy à certains endroits des cours de l'école où les enfants puissent se regrouper à plusieurs. Ça va être aussi des cours beaucoup plus inclusives que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans certaines écoles de Marseille, vous avez le terrain de foot au milieu et puis vous avez les garçons qui monopolisent la cour d'école. Donc nous, on veut arriver vers des cours entre guillemets non genré, même si le terme ne me plaît pas trop. C'est toute cette réflexion-là que nous sommes en train de mettre en place et que nous développons, parce que déjà les futurs projets qui vont sortir de terre d'ici quelques mois, il y a déjà toutes ces thématiques qui sont mises en place.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire de Marseille, en charge du plan école, et merci à Rodrigo Arenas, représentant connu maintenant de la FCPE. Ça fait combien d'années que vous êtes à la tête de la FCPE, vous ?
Écoutez, ça va faire 3 ans, j'arrive au terme de mon mandat, au prochain congrès, et comme j'aime pas le cumul des mandats et qu'il faut savoir aussi
passer la main.
Être fier des nouvelles générations qu'on a formées, je passerai la main.
Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir sur Radio Territoria. Maire de France, bonjour, à retrouver évidemment en podcast. Très belle journée à tous.
Maire de France, bonjour, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.